bien. Donc, bonjour à toutes et à tous. Voilà, on va discuter un petit peu de l'énergie nucléaire aujourd'hui. Donc, comme c'est un sujet peut-être un peu compliqué, peut-être un peu controversé, peut-être qui a besoin d'illustrations, on va faire quelques présentations sous forme de diapositives pendant environ 3 quarts d'heure. Et puis ensuite, je vous laisse la parole si je ne vous ai pas assommé. Mais je suis sûr que vous serez en pleine forme pour poser toutes les questions que vous souhaitez poser. Donc simplement, je rappelle que les sources d'énergie se décomposent selon, on va dire, 2 grandes familles. Et comme toujours, quand on décompose en 2 grandes familles, il y a toujours les gens qui sont un peu en dehors de la famille. Donc les 2 grandes familles, c'est les énergies qu'on appelle fossiles, c'est-à-dire celles qui se trouvent dans le sous-sol et qui sont issues de la décomposition de systèmes vivants. C'est le pétrole, le gaz et le charbon. Il y a ce qu'on appelle les énergies renouvelables, qu'on connaît bien maintenant parce qu'elles sont tout à fait en pointe. L'éolien, le solaire, la biomasse, la géothermie, et puis l'hydraulique, qu'il ne faut pas oublier, hein, l'hydroélectricité notamment. Et puis entre les deux, il y a une énergie qui est un peu à part, qui s'appelle l'énergie nucléaire. Pourquoi elle est à part? Parce qu'en fait, elle est issue d'un minerai qui s'appelle l'uranium. Ce minerai étant sous-sol, mais n'étant pas issu, bien sûr, de décomposition du système vivant. Donc on va se focaliser sur cette énergie-là, sachant que vous pourrez éventuellement me poser des questions sur les quelques autres. Donc voilà, ça va être un petit peu compliqué, mais on sait déjà qu'en fait, il y a plein de questions qui se posent, et vous voyez qu'on n'a pas attendu cette année 2009 pour se poser des questions, et que même le capitaine Haddock s'inquiète du sujet des neutrons qui ne rentrent pas dans la réaction nucléaire. Donc on va essayer d'éclaircir un peu cette affaire-là, et je vous propose un exposé en 4 points. Donc on va essayer d'expliquer pourquoi c'est une source d'énergie concentrée, et le fait d'être concentré, ça a des avantages et des inconvénients. On va essayer de les passer en revue. On va voir pourquoi cette énergie nucléaire a finalement des applications industrielles de nos jours. Je parlerai de 2 voies principales de cette application, qui sont la partie fission et la fusion nucléaire. Et puis on terminera par un petit panorama sur l'ensemble des réponses et aux défis climatiques. Alors, puisque vous êtes tous en classe scientifique, je ne ferai sûrement que répéter ce que vous savez déjà. La matière est constituée notamment d'atomes, et ces atomes, les briques élémentaires de ces atomes, c'est un noyau et un électron qui tourne autour, et à l'intérieur du noyau, il y a donc des protons et des neutrons. Donc ces 3 particules peuvent s'associer de façon diverse et variée pour construire en fait des éléments, les atomes qui nous entourent. L'atome le plus simple, c'est l'atome d'hydrogène. Donc vous voyez qu'il a un noyau constitué simplement par un proton et puis un électron qui tourne autour. La règle à retenir, c'est que comme l'électron est négatif et le proton positif, pour que l'ensemble soit neutre, il faut qu'il y ait le même nombre de bleus et le même nombre de rouges. Et puis il y a effectivement les neutrons. Et les neutrons, eux, ben, on peut en mettre, j'ai envie de dire, presque autant qu'on veut dans un noyau, puisqu'ils sont neutres, donc ils ne sont pas soumis à la règle de l'équilibre des charges. Comme ça, on construit un certain nombre d'éléments, la nature a construit un certain nombre d'éléments. Depuis, par exemple, si on est familier avec les notions de Big Bang, depuis le fameux Big Bang et la création de l'univers, c'est 3 minutes après le Big Bang qu'on a retrouvé une soupe de neutrons, d'électrons et de protons. Et c'est quelques milliers d'années après qu'on a réussi à former les atomes de plus en plus compliqués. De plus en plus compliqués, ça va jusqu'à l'uranium. L'uranium, c'est donc un élément qui contient 92 électrons, un nombre de neutrons variable entre 134 et 148, et 92 protons, puisque bien sûr, il doit avoir le même nombre pour l'équilibre. Donc on voit que la nature peut construire un certain nombre d'éléments, et il y a des éléments qui sont dits radioactifs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la nature a un peu trop bien fait les choses, et qu'on a notamment rempli le noyau avec un peu trop d'éléments, un peu trop de protons ou de neutrons, et que la façon dont la nature peut se débarrasser, entre guillemets, de ces atomes un peu différents des autres, c'est de les remettre dans un état plus stable. Et pour ça, bien, ce retour à l'équilibre, c'est par l'intermédiaire d'une émission de rayonnement. Et donc on a trouvé que la meilleure façon de l'appeler, c'était encore le fait qu'ils soient radioactifs, c'est-à-dire qu'ils se décomposent en émettant un rayonnement. Alors c'est un phénomène qui est très court ou très lent, l'exemple, la diapositive suivante va vous montrer pourquoi. C'est un phénomène tout à fait naturel, puisque ça existe depuis la naissance de l'univers. On a vu que c'était l'univers lui-même qui avait fabriqué des atomes qui étaient un peu différents. Et puis c'est quelque chose qui nous entoure, puisque je prends l'exemple, alors je ne saurais pas calculer dans cette salle parce que je ne sais pas encore combien vous êtes, mais un organisme vivant d'un poids à peu près correct, ça fait 8000 becquerels. Le becquerel étant l'unité qui mesure la radioactivité. Donc, si vous êtes assis à côté de votre voisin, votre voisin est en train de vous irradier à raison de 8000 becquerels. Vous comptez combien il y en a dans la salle. La caractéristique des éléments radioactifs, on la donne, j'ai parlé de becquerels, mais on la donne justement selon trois grands types. Ce qu'on appelle l'activité, c'est jamais que le nombre de désintégrations de ce noyau un peu bizarre par seconde. Alors désintégration, c'est un mot qui est un peu bizarre, parce qu'on ne devrait pas dire celui-là, on devrait dire le fait qu'il retourne dans un équilibre, dans un noyau qui est différent, parce que désintégration, en bande dessinée ou en science-fiction, on a l'impression que ça, c'est un évanouissement pur et simple. Il s'est désintégré, ça veut dire qu'il n'est plus là, mais qu'il est nulle part. Ce n'est pas le cas des atomes radioactifs. Ils se décomposent en autre chose, et cette autre chose, c'est justement ce qu'on appelle en général les descendants. Alors, la nature étant un tout petit peu macho, on parle plutôt de père et de fils que de mère et de fille pour les éléments. Donc, certains éléments sont les fils des précédents. Activité et période, on entend souvent dire oui, c'est une période de X milliards d'années, ou je sais pas quoi. Qu'est-ce que ça veut dire la période? C'est le temps nécessaire pour que l'activité soit divisée par deux. Bon, c'est une convention, on a appelé ça comme ça. Ça s'appelle la période avant, ça fait la demi-vie, c'est un peu tordu comme vocabulaire. Donc on préfère appeler ça la période. Et puis enfin, comme je vous le disais, puisqu'ils sont radioactifs, c'est donc ils émettent des rayonnements. Et les rayonnements émis peuvent être de différentes sortes, on pourra discuter ensemble de différentes sortes. Vous pouvez au moins s'imaginer qu'il y en a trois ou quatre principales. Bon, bien sûr, c'est un rayonnement qui est invisible. Il pourrait se décomposer dans un rayonnement visible. Il se trouve qu'en l'occurrence, l'énergie des rayonnements émis fait qu'on se trouve dans un spectre invisible. La période de quelques radioéléments, voilà, je vous les ai mis comme ça. Il y en a qui sont très courts. Vous voyez, 10 mois. Très court, c'est le cas de le dire, oui. 10-7 secondes, c'est pas beaucoup quand même. Et puis vous avez à l'autre échelle du temps, 10 puissance 24 milliards d'années. Donc celui-là, il met du temps pour se décomposer quand même. Donc vous voyez qu'on a toute une série d'éléments, et c'est notamment ça qui permet d'expliquer pourquoi on trouve de l'uranium radioactif dans les mines. Ben c'est parce que l'uranium, vous voyez, il se trouve ici, principalement, on en a ici, 700 millions d'années ou 4,5 milliards d'années, compte tenu de l'âge de la Terre, et ben, on s'aperçoit que l'uranium qui était là au départ, comme il met 4,5 milliards d'années pour se décomposer, bien, il est encore là à l'arrivée. Donc c'est pour ça qu'on trouve des mines d'uranium, par exemple. Vous pourrez chercher, vous ne trouverez pas des mines de césium-137 ou des mines de carbone-14, par exemple. Voilà, donc là-dessus, sur l'aspect période, on va évoquer maintenant le principe même de l'énergie nucléaire, c'est ce qu'on appelle la fission. Ça consiste en quoi, la fission? Ça consiste à la séparation d'un atome qui se trouve être trop lourd, sous l'effet d'une petite pichenette qui est ni plus ni moins qu'un neutron. Donc on envoie un neutron, la nature s'arrange pour envoyer un neutron, et ce gros noyau se sépare en deux fragments qu'on appelle tout simplement des produits de fission, au moins pour une fois le terme n'est pas trop compliqué. Ça c'est la fission, et ce qui est à côté c'est des produits de fission. Sous l'effet donc du neutron incident, on a émission d'un rayonnement, d'autres neutrons, et tout ça dégage une énergie, alors vous me pardonnez, c'est pas des joules, hein, nos profs ont dû vous dire que l'énergie, on devait toujours exprimer ça en joules. Le physicien parfois utilise des électronvolts, ça c'est des millions d'électronvolts. Donc ça fait environ 200 millions d'électronvolts. C'est ça qui permet effectivement de produire de l'électricité, on verra comment. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que notamment cette énergie mise en œuvre dans la fission, c'est une énergie qui est environ 1 million de fois plus grande que celle qui est mise en œuvre dans les réactions chimiques. Une réaction chimique de type combustion, de type une réaction chimique que vous faites dans une paillasse, et bien la fission d'un atome sous l'effet d'un neutron, c'est quelque chose qui dégage une énergie 1 million de fois plus grande. Donc on conçoit bien l'aspect concentré et bien en partie de là, de ce facteur 1 million sur l'énergie dégagée par la réaction. Le nucléaire, la fission nucléaire, c'est basé sur le principe de la réaction en chaîne, et qui est une idée française de Frédéric Joliot-Curie. Vous voyez ici une copie du brevet qui date de 1939. Qui s'est dit que puisque finalement cette réaction émettait des neutrons, on pouvait récupérer ce neutron et le remettre ici pour casser d'autres noyaux. Et c'est ça, ni plus ni moins, ce qu'on appelle la réaction en chaîne, c'est qu'en fait vous utilisez les neutrons qui sont émis par cette première réaction pour en faire d'autres. Alors ça paraît tout simple, comme toutes les grandes idées, elles paraissent simples quand on est en train de les exposer, mais encore fallait-il les trouver, encore fallait-il ne serait-ce que détecter le fait que ce noyau, en se cassant, émettait des neutrons. Pour donner un ordre de grandeur, on a l'impression que tout ça, c'est très connu. Le neutron, c'est quelque chose qui a été découvert en 1933 seulement. Hein. Donc vous voyez, le Brodeur 1939 pour 1933, bon, ça peut consister à dire que, en l'occurrence, M. Joliot-Curie avait quand même des bonnes idées. Donc, puisque je vous ai évoqué le fait que c'était concentré, on peut retrouver des idées de cette concentration en mesurant l'énergie. Alors, vous savez souvent qu'on compare les énergies entre elles. Là, voilà, j'ai comparé l'énergie contenue dans 15 grammes d'un uranium, qu'on appellerait, on verra pourquoi après. Eh bien, 15 grammes d'uranium, ça contient autant d'énergie qu'une tonne de pétrole, 1,4 tonne de charbon, ou bien, si vous choisissez du solaire, par exemple, 15 000 mètres carrés de panneaux solaires éclairés au soleil pendant une heure. Donc ça donne un petit ordre d'idée. Nous avons affaire à une énergie qui est très concentrée. Alors, une solution industrielle. Oui, parce que c'est bien beau d'imaginer qu'on a un truc qui peut à peu près marcher, qu'on dépose un brevet, c'est vrai dans toutes les sciences, ça. Il y a une différence entre l'échelle du laboratoire et celle de l'aspect industriel. L'aspect industriel, ça implique quoi? Ça implique qu'il faut que ça marche, qu'il faut que ça marche de façon sûre, de façon permanente, de façon répétée, de façon tout à fait fiable. Et c'est l'aspect que je voulais évoquer ici, simplement pour dire que de nos jours, bien, la France, mais il y a d'autres pays, mais la France met en œuvre donc ce procédé de fission nucléaire pour faire son électricité, à raison d'à peu près 3/4 d'électricité, hein, en 2007, 3/4 d'électricité française est d'origine nucléaire, à partir de 58 réacteurs qui sont disposés sur les sites que vous avez là. Vous en avez des tout près de chez vous, à Gravelines, notamment avec 6 tranches de réacteurs. Qu'est-ce qu'on peut voir sur cette carte? On peut voir une chose, c'est que, en général, les centrales nucléaires sont situées près des grands fleuves ou en bord de mer, tout simplement pour des questions de refroidissement. Donc vous en avez notamment dans la vallée du Rhône, vous en avez sur le long de la Loire, vous en avez sur le long de la Garonne, et puis vous en avez en bord de mer, soit Normandie, soit dans votre région, et puis éventuellement au Cap de la Hague. Donc voilà, 58 réacteurs à eau pressurisée, c'est le terme consacré, parce qu'ils ont une particularité, c'est qu'ils fonctionnent selon ce mode-là, on appelle ça en général des REP. Ils sont tous, pour l'instant, confiés à notre électricien national, qui est EDF. La plus ancienne, c'est Fessenheim, qui est en Alsace, 1977, et la plus récente, c'est Civaux 2, qui est dans la Vienne, 1999. Et l'âge moyen, ben vous l'avez là, alors c'est en 2007, donc il suffit de rajouter 2 ans, l'âge moyen en 2009, c'est 23 ans pour nos centrales. Dans le monde, comment ça se passe? Alors même si cette carte n'est pas très lisible, qui sont les grands pays nucléaires? Les États-Unis, qui ont 104 réacteurs nucléaires quand même. La France en a 58 ou 59, suivant comme on compte. Vous avez ensuite, à l'autre bout de la planète, j'ai envie de dire, le Japon, 55, la Russie, 31. Et puis après, vous avez un certain nombre de pays qui en ont un peu moins et qui se dispersent. L'Europe, si on compte l'Europe au sens large du terme, est le premier producteur d'électricité d'origine nucléaire, puisque 31% de l'électricité d'Europe est produite par l'énergie nucléaire. Vous savez aussi, c'est une caractéristique, que c'est en Europe que se trouvent les pays les plus anti-nucléaires. Donc voilà, c'est une des contradictions européennes supplémentaires. Vous en avez d'autres exemples dans la vie de notre communauté européenne, mais vous avez celle-ci sur l'énergie. 439 réacteurs en fonctionnement fin 2007. Alors, je reviens juste sur la fission pour rentrer un tout petit peu plus dans les détails. Donc, on a dit qu'on avait un noyau d'uranium qui était là, qui était un petit peu instable, qu'il suffisait de lui envoyer un neutron pour arriver à le casser, le transformer en deux autres choses qui ne nous intéressent pas tellement, qui sont les produits de fission, que j'ai appelé produits de fission 1, PF1, produits de fission 2, PF2, et puis nos petits neutrons qui partent pour revenir dans la réaction en chaîne suivante. Alors en fait, tout l'art de l'électricien qui a envie de travailler et de produire son électricité à partir de là, ça consiste en quoi? Ça consiste à choisir le bon élément, parce que là j'ai pris l'exemple de l'uranium, mais la nature peut en donner quelques autres. Ça consiste à savoir récupérer l'énergie, parce que c'est pas le tout de produire ces fameux 30 picojoules ou 200 MeV, mais encore faut-il savoir les récupérer pour en faire quelque chose. Et puis bien sûr, ça consiste aussi à faire en sorte de bien utiliser les neutrons qui sortent. Parce que vous voyez que ces 3 neutrons qui sortent, si jamais ils se perdent en chemin, jamais aucun des 3 n'arrivera à retomber sur un atome d'uranium pour refaire une réaction en chaîne. Donc ça, c'est l'art du constructeur, j'ai envie de dire, de réacteurs nucléaires, de faire en sorte que tout ça fonctionne. Et alors là, il y a des termes barbares qu'on peut retenir ou qu'on peut ne pas retenir. L'élément en question, là j'ai pris le cas de l'uranium, mais celui qui donne suffisamment de neutrons notamment et qui permet d'amorcer la réaction en chaîne, c'est ce qu'on appelle un combustible. Celui qui contrôle un peu tous ces neutrons là qui se baladent dans le réacteur, c'est ce qu'on appelle un modérateur. Et puis celui qui récupère l'énergie qui est émise sous forme de chaleur, donc il la récupère pour la transporter, c'est ce qu'on appelle un fluide caloporteur. Alors ça, c'est jamais que faire un peu d'étymologie. Caloporteur, ça veut dire qui transporte la chaleur. Donc c'est un fluide. Pourquoi? Parce que c'est plus facile pour le transport d'utiliser un fluide plutôt qu'un solide. Et ce qu'on appelle parfois une filière nucléaire, eh bien c'est le choix que le concepteur fait de choisir en disant je vais prendre comme combustible, je sais pas moi, l'uranium, je vais prendre comme modérateur de l'eau, et puis par exemple je vais prendre comme fluide de l'eau. Voilà. Ça c'est ni plus ni moins qu'une filière. Le physicien nucléaire a le choix de plusieurs filières compte tenu des réactions et compte tenu des éléments qui sont à sa disposition. Il est clair que si vous avez, pas beaucoup d'uranium, eh ben, il faudrait essayer de trouver un combustible qui ne soit pas d'uranium. Sinon, ça complexe un peu la chose. Fonctionnement d'un réacteur nucléaire, voilà, c'est quelque chose qui se présente de la façon suivante. Vous avez un circuit primaire que j'ai marqué en rouge, un circuit appelé secondaire qui est en vert et bleu, et puis un circuit tertiaire qui est en violet sur ma diapositive. Donc ça fonctionne de la façon suivante. On a vu que la fission crée de la chaleur. Donc on échauffe en fait un fluide, comme on ferait bouillir de l'eau en l'occurrence, dans le circuit rouge, qui est ici. Cette eau échange sa chaleur avec un autre fluide intermédiaire de cet élément-là qu'on appelle un échangeur de chaleur ici. Donc ce second fluide vert est chauffé et se transforme notamment en vapeur. Alors, la vapeur est bleue, le fluide est vert, c'est peut-être pas idéal comme symbolique, mais et puis cette vapeur fait tourner une turbine qui entraîne un générateur qui fait de l'électricité. Et puis cette vapeur, elle est recondensée, autrement dit, elle est retransformée en liquide par l'intermédiaire d'un dernier échange avec le circuit 3 qui sert uniquement, lui, à refroidir la vapeur. Donc vous avez ces trois étapes. Et dans le cas d'un réacteur à eau pressurisée, c'est-à-dire ceux qui nous éclairent aujourd'hui, EDF a choisi de fonctionner avec un combustible qui est de l'oxyde d'uranium et un caloporteur et un modérateur qui est le même élément, qui se trouve être de l'eau légère, de l'eau ordinaire. Et donc, par contre, cette eau, elle fonctionne sous pression, et donc le réacteur, on lui donne le nom de réacteur à eau pressurisée. Ça, c'est le fonctionnement normal. Ce transparent est un peu compliqué. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Juste un truc qu'on voit bien sûr pas, parce que c'est toujours comme ça, les choses importantes, on les voit pas beaucoup. C'est la dernière ligne. C'est le fait que, pour donner un ordre d'idée, à chaque seconde, dans un réacteur nucléaire géré par EDF, il se passe 10 puissance 20 réactions de fission par seconde. Donc ça fait quand même pas mal à contrôler. Donc tout ça pour dire que la réaction nucléaire, c'est une chose dans le principe, et que son application industrielle contrôlée, c'est donc quelque chose qui mérite le fait qu'on s'y attache pour pouvoir contrôler autant d'événements en aussi peu de temps. Le fonctionnement d'un réacteur, j'évoquais deux choses sur le fonctionnement, les trois circuits qu'on évoquait tout à l'heure. Ici, j'ai évoqué en termes de sûreté nucléaire. Quels sont les moyens de faire en sorte que si un événement non désiré se passait dans le réacteur, autrement dit un incident ou un accident nucléaire, on puisse préserver l'environnement, c'est-à-dire l'extérieur du réacteur, des conséquences radiologiques. Cette protection et cette sûreté nucléaire est basée sur le fait qu'on a trois barrières, ce qu'on appelle trois barrières, qui s'emboîtent un peu comme des poupées russes. La première barrière, vous l'avez ici, c'est effectivement la gaine du combustible, parce que le combustible est mis dans un sorte de tube qui est en métal, tube assez long, qui fait 1 cm de diamètre, à peu près 4 mètres de long, qui est en alliage de zirconium, qui est soigneusement hermétique. La deuxième barrière, c'est l'enveloppe de ce circuit, qui est en général en acier. Et puis la troisième barrière, c'est l'enceinte de confinement, qui en général est double et qui se termine par une grande enceinte en béton, assez caractéristique de ce qu'on peut voir, un cylindre avec un dôme autour, qui est l'exemple type des réacteurs nucléaires. Donc en fait, la façon la plus sûre qu'on a trouvée pour gérer les comportements incidentels et accidentels, c'était d'emboîter ces différentes barrières de telle façon à ce que si l'une arrive par malheur à se rompre, on a encore le temps d'agir pour faire en sorte que les deux autres tiennent le coup. C'est le principe qu'on appelle principe de système de sécurité redondant et indépendant, puisque c'est pas parce que cette gaine en zirconium, par exemple, se perce que ce circuit en acier va se percer lui aussi, sachant qu'ils vivent leur vie de façon totalement indépendante. Un mot sur les déchets nucléaires, on pourra y revenir parce que c'est une question souvent qui est posée. Il y a quatre grands types qui varient suivant la radioactivité. Vous pouvez concevoir que, par exemple, qu'est-ce qu'on appelle les déchets technologiques ? Les déchets technologiques, c'est pour faire à partir de l'uranium du combustible, et bien, il y a des usines qui travaillent sur l'uranium. Ces usines, elles travaillent sur l'uranium, alors vous pouvez, usiner l'uranium pour en faire des petites pastilles grandes comme ça. Et les outils, par exemple, qui servent à usiner l'uranium, c'est pas de l'uranium, mais ils ont vu un peu d'uranium. Donc ça, c'est considéré comme des déchets nucléaires. En général, ils sont assez peu radioactifs, et donc ils ont une activité assez faible. En contrepartie, si je regarde par exemple l'autre dernière catégorie la plus embêtante, c'est le combustible usé, c'est-à-dire c'est le fameux uranium qui a servi 3-4 ans dans une centrale. Quand on le ressort, eh bien c'est un uranium qui est très radioactif, qui est ce qu'on appelle une haute activité. Et bien sûr, on traite chacun de ces déchets de façon différente selon qu'ils sont très peu ou pas du tout radioactifs. Donc ça, on pourra tout à fait y revenir après. Je vais évoquer maintenant les générations de réacteurs nucléaires. Vous avez ici les années, depuis 1950 jusqu'à 2090, donc ça nous laisse un peu de temps. Donc vous voyez qu'on est à peu près au milieu, ici. Et que pour l'instant, on a vu passer trois générations de réacteurs nucléaires. On a l'habitude de les appeler générations, et on a aussi l'habitude d'oublier un peu ce que ça veut dire. Pour ceux qui ont suivi les débats de la vie politique, vous avez dû voir que lors de la dernière campagne présidentielle, chacun des deux candidats, lors d'un débat public télévisé, se sont trompés tous les deux sur les générations nucléaires. Alors j'espère que si parmi vous, il y a un futur ou une future présidente de la République, il se souviendra au moins de cette diapositive. Donc la génération 1, c'est celle que nous, Français, nous avons mise en place, qui veut dire uranium naturel, graphite, gaz. Souvenez-vous, j'ai dit qu'une filière, c'était un modérateur, un combustible, un caloporteur. Voilà, une filière, c'est considéré comme ses initiales. Ça marchait de l'uranium naturel, du graphite et du gaz. C'est une filière qui s'est arrêtée en 1974-75, qui a permis à la France de faire ses débuts dans l'électricité nucléaire. Ensuite, depuis 1977, je vous avais évoqué avec vous la centrale de Fessenheim, c'est la première centrale à réacteur à eau pressurisée. On construit des réacteurs qui sont, je vais juste y revenir après, qu'on appelle de génération 3, qui sont les cousins de ceux de génération 2. La première construction, c'est pas très loin, dans l'ouest de la France, à Flamanville, dans la Manche. Et puis il y en aura une autre à Pinly, en Seine-Maritime. Et puis nous, chercheurs, entre guillemets, on se focalise et on travaille sur les générations encore plus lointaines, puisque vous savez qu'entre la recherche et l'industrie, il y a environ, dans ce domaine-là en tout cas, il y a environ entre 20 et 30 ans de différence, entre le moment où on recherche quelque chose dans le laboratoire et puis le moment où on a l'application industrielle. Pourquoi c'est si long dans le nucléaire ? Parce qu'il y a toute une question de sûreté qui convient complètement d'exploiter et d'avoir vérifié avant de mettre le truc en place. Il est clair que sur les générations de téléphone mobile ou de clés USB, vous voyez que toutes les semaines, vous avez un truc qui marche à peu près deux fois mieux que le précédent. Dans le nucléaire, ce n'est pas toutes les semaines, c'est tous les 30 ans. Et donc, les laboratoires avec lesquels je travaille, on est pourtant en 2010, et bien on travaille à mettre au point les générations qui donneront de l'électricité et d'autres choses à partir de 2050. Donc vous voyez qu'en termes de métier, par exemple, c'est tout à fait différent. En termes de métier, ici, vous avez à exploiter, comme on dit, c'est-à-dire faire en sorte que la centrale tourne correctement pendant le nombre de mois ou de jours où on décide de la faire tourner. Optimiser, c'est-à-dire voir si on ne peut pas gagner un peu en rendement, en fonctionnement, etc. Sur les générations qui n'existent pas, eh bien, le métier, c'est un métier de concepteur. Ça consiste donc à imaginer, à calculer, grâce aux moyens de calcul actuels, logiciels, ordinateurs, simulations numériques, et puis à concevoir au sens laboratoire du terme, c'est-à-dire à imaginer des expériences pour vérifier que ce qu'on a imaginé est quelque chose qui tient le coup. Et bien ça, c'est ce qu'on fait actuellement sur la quatrième génération, et on a donc à peu près 30 à 40 ans pour travailler. C'est pas beaucoup, contrairement à ce qu'on pourrait penser. La génération 3 EPR, j'ai pris deux exemples dont on entend parler. Donc en France, c'est la construction du chantier qui a lieu à Flamanville dans la Manche. Et puis notre président de la République a donné une annonce en janvier 2009 en disant que le second réacteur EPR serait à Pinly, qui est en Seine-Maritime, fonctionnement en 2017. Et on évoque éventuellement celui-ci dans la presse, je pourrais y revenir, en Finlande. C'est un chantier Areva, donc mené par une entreprise française à l'étranger. Voilà, chantier qui donne normalement lieu à une construction d'une centrale nucléaire qui fonctionnera en 2011. Quelle est l'idée ? L'idée, si j'ai dit tout à l'heure que la génération 3 c'était cousin de la génération 2, c'est qu'on change quelque chose, mais on ne change pas le principe. C'est-à-dire qu'on est toujours dans notre fameuse filière REP, réacteur à eau pressurisée. Simplement, on prend les 30 ans précédents, on regarde tous les incidents, tout ce qui a pu avoir lieu, et on essaie d'optimiser, de faire en sorte que, un peu, j'ai envie de dire, comme Volkswagen fait avec sa voiture Golf, hein, vous savez qu'on vend toujours des Golf, ceci dit, la Golf qu'on vend aujourd'hui, c'est pas la Golf 1 qu'on trouvait dans les années 80. Eh bien, dans les REP, c'est un peu comme ça, le REP 1, c'est la génération 2, celui qui nous éclaire, qui nous chauffe en France, les 58 réacteurs, et puis il y a la génération 3, qui s'appelle pour nous EPR, qui consiste en une amélioration, une évolution de ce concept. Alors la quatrième génération, celle que j'évoquais et qui, sur laquelle les chercheurs travaillent aujourd'hui, c'est quelque chose, donc, comme je le disais, qui va marcher sans doute à l'horizon 2040, qui est basé bien sûr sur deux grands principes en continuité avec les générations actuelles, compétitivité économique et surchauffabilité. Vous n'imaginez pas qu'on puisse développer un système nucléaire qui soit moins fiable et moins sûr que les précédents, à moins d'être complètement masochiste. Et puis compétitivité, parce que cette chose-là, c'est quand même destiné à produire de l'électricité, et qu'on conçoit bien que le consommateur, il a quand même une facture à payer à la fin. En revanche, on intègre dans cette quatrième génération un certain nombre de critères qui pour vous paraîtront sans doute tout à fait normal parce que vous êtes de la génération du développement durable, mais qui sont des critères qui pouvaient être un petit peu nouveaux à l'époque. Ça date de 2000, ce revirement et cette imagination d'une quatrième génération, avec notamment les deux premiers critères qui sont importants, qui sont l'économie des ressources et la minimisation des déchets. C'est-à-dire que dans les années 70, on imaginait que toutes les ressources naturelles étaient à peu près illimitées. Pétrole, charbon, etc., uranium. Et puis on s'est aperçu que ce n'était pas si vrai. Et donc on a soin maintenant de faire en sorte de mieux économiser les ressources, ou de mieux les préserver, ou de mieux les utiliser. Donc ça c'est un point nouveau, et donc la physique des réacteurs nucléaires de quatrième génération va se baser sur cette meilleure utilisation. Et puis minimisation des déchets, puisque là encore, c'est un souci actuel dans tous les domaines industriels, c'est le fait qu'on essaie de faire en sorte que soit les déchets soient mieux recyclés, soit qu'un procédé en produise moins que le procédé précédent. Voilà. J'ajoute une chose, c'est que la recherche et le développement, qu'on appelle R&D en termes barbares, la recherche et développement dans le nucléaire, avant c'était quelque chose qui était tout à fait... Chaque pays faisait la sienne. C'était très, très national, nationalisé, pas beaucoup de contact avec les chercheurs étrangers. Vous concevez bien que la naissance nucléaire, ça a lieu pendant les années de guerre froide, notamment, comme on dit. Donc, dans les années 50-60, il est clair que c'était pas immédiatement évident que, par exemple, les Russes et les Américains collaborent sur la partie nucléaire. C'est quelque chose qui, de nos jours, a bien changé avec la géopolitique. Et il existe notamment un forum qui s'appelle le Forum International Génération 4, peu importe son nom, qui regroupe tous ces pays. Donc, notamment, vous voyez que dans ce genre de choses, vous avez la Russie, l'Angleterre, la France, le Canada, la Chine, les États-Unis, pour parler des très grands pays, le Japon, qui mettent ensemble un certain nombre de chercheurs pour collaborer, pour essayer de trouver des solutions, et puis pour faire en sorte de faire avancer plus vite la recherche et le développement, plus vite que si chaque pays avait simplement mis ses chercheurs à lui. Donc ça, c'est une différence notoire entre la recherche dans le nucléaire à l'heure actuelle et la recherche dans le nucléaire telle qu'on pouvait l'imaginer il y a de ça 30 ou 40 ans. Comment mieux utiliser l'uranium ? Ça, on y reviendra. L'idée qu'il faut retenir, c'est que la physique nous aide et qu'en choisissant des neutrons, parmi les neutrons qui sont émis, en choisissant des neutrons qu'on appelle rapides, eh bien, on peut mieux utiliser l'uranium. Et mieux utiliser l'uranium, ça veut dire quoi ? Alors ça, je pourrais l'expliquer après, mais ce qui compte, c'est plutôt le résultat. C'est qu'avec le même morceau d'uranium, grâce à ces neutrons rapides, eh bien, on fait 50 fois plus d'électricité que ce qu'on faisait avant avec des neutrons moins rapides. Donc multiplié par 50, c'est pas 50%, hein, c'est 5000%, là, donc multiplié par 50, ça obéit bien sûr aux critères de préservation ou d'économie des ressources, comme la ressource uranium, et c'est donc quelque chose sur lequel les physiciens se penchent actuellement pour faire en sorte que ça puisse avoir un débouché, on sait que ça marche du point de vue labo, pour faire en sorte que ça puisse avoir un débouché à l'échelle industrielle. Juste ce graphique, si vous devez retenir qu'une chose, c'est qu'avec les fameux neutrons rapides, avec les neutrons actuels, on en a pour 85 ans, si on garde le même rythme de consommation de l'uranium, avec les neutrons rapides, on en a pour 2550 ans, voire 8500 ans de fonctionnement. Donc ça laisse un peu de marge pour trouver encore des procédés encore plus intelligents que le nucléaire, mais 8500 ans, c'est tout de même mieux que 85. Donc vous voyez que là, par un souci d'économie des ressources, eh bien finalement, on peut se permettre d'avoir une souplesse dans le fonctionnement des nouveaux systèmes. Dernier point, on l'évoquera éventuellement après, celui-ci. Voilà. Je voulais parler de la fusion, qui est la deuxième voie. J'ai parlé de fission. La fission prend un gros atome sous l'effet d'un neutron dans le cas 102. La fusion, alors évidemment on ne voit pas, mais ça s'appelait fusion, ça s'appelait même le fait que c'était une voie séduisante, donc je vous lis le titre de manière positive. Ça consiste en quoi? Ça consiste à faire rapprocher deux atomes très légers, les faire fusionner, comme son nom l'indique, et on récupère de l'énergie, et puis bien sûr on récupère toujours quelque chose dans une réaction. Donc on récupère un neutron en l'occurrence, et puis on récupère ce qu'on appelle un noyau d'hélium, qui est un gaz rare qui a comme son nom l'indique, qui n'est pas du tout rare, mais on dirait plutôt un gaz inerte, c'est-à-dire qu'il n'interagit pas avec l'environnement, et qui est plutôt un gaz relativement sympathique. Cette réaction de fusion est une réaction qui est difficile à faire du point de vue de la physique, tout simplement pourquoi? Parce que faire rapprocher deux atomes l'un tout près de l'autre, ça veut dire faire rapprocher leurs deux noyaux, et les noyaux, vous concevez bien que dans les noyaux, il y a donc des protons, des neutrons, donc le noyau c'est un truc plutôt positif, et que la première loi d'électrostatique suppose qu'on ne puisse pas du tout imaginer avoir une superposition de deux éléments positifs au même endroit. Ils vont avoir tendance à se repousser. Donc il faut développer des conditions expérimentales qui soient telles qu'on arrive à vaincre les lois de l'électricité et de l'électrostatique. Et notamment, ça implique que c'est des défis qui sont d'ordre technologique, cette affaire-là, puisqu'il faut notamment utiliser un milieu dans lequel la température monte à 50 millions de degrés. Donc ceci fait que l'application technologique de cette affaire-là n'est pas du tout immédiate et facile à réaliser. Les avantages de cette affaire, c'est que ces deutérium et tritium, en fait, ce sont les cousins de l'hydrogène, c'est des isotopes de l'hydrogène. C'est quelque chose qui est très abondant, il est bien distribué, donc on n'a pas de souci de combustible, j'ai envie de dire. Vous voyez qu'il n'y a pas de réaction en chaîne, puisqu'on n'utilise pas ce neutron-là pour refaire une réaction, puisque dans la réaction, on n'utilise que du deutérium et du tritium. Donc ce neutron-là ne sert à rien, donc on n'a pas de réaction en chaîne, et donc on n'a pas de risque, en termes de sûreté, d'emballement d'une réaction. Et puis on n'a pas beaucoup de déchets, même si on en a quand même, parce que ce neutron-là, notamment, il va aller quelque part dans la nature, et il va créer d'autres produits radioactifs, donc on a des déchets, mais qui sont des déchets plutôt de faible radiotoxicité, donc ils sont d'une toxicité faible du point de vue radioactif. Voilà, alors ça c'est la fusion, c'est une voie qui a un projet qui est particulièrement sous les feux de la rampe, qui s'appelle le projet ITER, alors vous ne l'avez pas, mais c'est marqué en haut. Ce projet il avait la particularité d'être défendu à l'échelle mondiale par deux grands pays, qui étaient le Japon ou la France, hein. C'était il y a quelques années de ça, et il y avait donc eu une sorte de duel diplomatique pour savoir quel pays l'aurait. Et bien c'est la France qui a gagné. Et ce projet il a lieu sur le site du commissaire à l'énergie atomique à Cadarache, dans les Bouches-du-Rhône, à côté d'Aix-en-Provence. Et on est en train de construire ce futur réacteur de fusion, sachant que l'exploitation de ce réacteur sera pendant 20 ans. Alors c'est pas 2015-2035, vous savez, les chantiers c'est rarement en avance. Donc ça c'était ma diapositive de l'année dernière, celle-ci, je ne l'avais pas mise à jour. On est à 2017-2037. Voilà, c'est un projet un peu pharaonique, hein, 10 milliards d'euros sur 45 ans. On change les routes, on change les ponts, par exemple, parce que les éléments pour faire passer les routes, justement, pour faire passer les éléments du réacteur ne sont pas suffisamment solides ou suffisamment larges. Donc, voilà, c'est quelque chose qui va fonctionner pendant 20 ans. Et comme j'évoquais avec vous le fait que dans la recherche nucléaire, les temps sont relativement longs, et bien c'est vrai pour la fission, c'est aussi vrai pour la fusion. Vous voyez que sur ce calendrier, alors peu importe les échelles, parce que c'est des échelles un peu techniques. Ce qu'il faut retenir, c'est que ITER sera suivi ensuite d'un réacteur qu'on appellera sans doute DEMO, comme démonstration, et que c'est ensuite, après le fonctionnement de ce réacteur pendant de nombreuses années, qu'on pourra éventuellement imaginer faire de l'électricité à partir de la fusion. Alors, si on est optimiste, on dit 2060, si on est réaliste, on dit 2100. Voilà. Donc c'est quelque chose que nous laisse un peu de temps à penser, mais c'est pas pour autant, la recherche, c'est travailler pour l'avenir, hein, c'est pas travailler pour aujourd'hui, mais travailler pour le passé. Donc c'est pas pour autant que cette voie, au contraire, a des tas d'avantages, et justement, il y a ces projets internationaux d'ITER pour essayer de faire en sorte que la physique de tous les pays puisse arriver plus vite encore que si on travaillait tout seul pour faire cette démonstration. Je voulais juste terminer par quelques considérations sur l'énergie pour éclairer un petit peu le choix qu'on a à faire parmi toutes les sources d'énergie. Alors vous imaginez bien sûr qu'on est soumis à deux grandes lois qui sont le fait qu'il faut essayer de diminuer nos émissions de gaz carbonique parce que gaz à effet de serre et que pour autant la population du globe elle est pour l'instant toujours en train d'augmenter et que donc on a affaire à un défi qui consisterait globalement à diviser par deux nos émissions de CO2 tout en assurant une production d'énergie pour à peu près le double d'individus. Alors c'est, si j'ai mis ces chiffres-là, c'est pour tomber rond, hein, c'est aux environs de 2050, hein, ce défi-là. Mais 2050, c'est demain à l'échelle du système énergétique. Hein. Donc les idées, c'est quoi? C'est bien sûr essayer de maîtriser la demande en énergie. Qu'est-ce qu'on entend par maîtriser la demande en énergie? C'est-à-dire faire des économies. On peut aussi produire, choisir des sources de production d'énergie sans CO2, on verra lequel. Si on produit du CO2, on peut essayer de le piéger ou de le séquestrer. Et puis bien sûr, le tout, c'est encore une fois avec l'idée qu'il faut préserver nos ressources, puisque sinon, il n'y en aura pas pour tout le monde, et quand il n'y en a pas pour tout le monde, en général, ça se termine plutôt mal par une bagarre généralisée, et c'est quand même pas le souhait de l'ensemble de la planète. J'évoquais en tout début les fossiles et les non-fossiles, et bien vous voyez que ça c'est l'ensemble de ce qu'on consomme à l'échelle de la planète. Et bien plus des trois quarts de ce qu'on consomme en énergie provient des fameux fossiles que sont pétrole ici, gaz ici, charbon là. Vous voyez que la part de l'énergie fossile, donc celles qui sont relativement limitées et qui émettent du gaz à effet de serre, notamment du CO2, et bien pour l'instant elle occupe plus des trois quarts de notre consommation d'énergie. Donc il va éventuellement falloir changer nos habitudes si on veut, bien sûr, relever le défi qui consiste à produire deux fois plus d'énergie en émettant deux fois moins de CO2. Alors si on compare les secteurs, vous savez que suivant les secteurs de production d'énergie, il y en a certains qui émettent plus de CO2 que d'autres. Donc ici on a classé les secteurs avec, quand on produit de l'électricité, c'est le graphique en rouge, tout ce qui est des procédés industriels, c'est le marron. Les transports, ah ça c'est donc les voitures, les camions, etc., les avions, c'est celui-ci. Résidentiel et services, c'est votre chauffage chez vous. Et puis il y a une petite partie. Donc vous voyez qu'on ici, on est mettons en 2005, et que les scénarios pour 2030, puisque tout l'art consiste à essayer d'imaginer l'avenir pour imaginer les bonnes solutions, vous voyez que la production d'électricité est quelque chose qui va devenir fortement émetteur de CO2 si on n'y fait pas attention. Ça, c'est en gardant les mêmes procédés. Donc, le secteur de l'électricité est un secteur sur lequel il faut quand même tout à fait veiller à utiliser des sources peu productives de CO2 ou à capter le CO2. On pense toujours que c'est le transport qui émet le plus de CO2. On se dit, oh là là, je ne vais pas prendre ma voiture, je ne prends plus l'avion, je prends le train, etc. Entre nous, le train, à supposer qu'il est électrique et que l'électricité ne fait pas de CO2. Sinon, ça ne sert à rien de prendre le train. Vous imaginez bien que dans des pays comme la Chine, par exemple, qui produit toute son électricité avec du gaz carbonique, prendre le train ou l'avion, c'est à peu près équivalent. Bon, aujourd'hui, effectivement, on avait le choix de prendre le train, on a une petite panne de TGV, mais donc, ça prouve effectivement que l'électricité est un bien aussi auquel on est tout à fait habitué, et un bien sans lequel on ne peut pas faire grand-chose, quand même. Il faut s'en souvenir. Et il faut aussi se souvenir qu'il y a une grande partie de la population de la planète qui n'a pas du tout accès à l'électricité. C'est bien, au moins il y a un chronomètre, comme ça on est timé. Alors voilà les émissions de CO2 par kilowattheure. Alors on mesure l'électricité par kilowattheure, et puis on mesure combien de kilos, combien de grammes de CO2 ça produit. Alors, vous voyez qu'on a des grandes catégories. On évoquait en début les fossiles, non fossiles, c'est-à-dire les fossiles, le nucléaire et les renouvelables. Et bien ici, quand on regarde le CO2, on retrouve quoi? On retrouve en haut les plus polluants en termes de CO2, qui sont les fossiles, charbon, pétrole et gaz. Le solaire, qui est ici, je vais expliquer pourquoi il se trouve à cette limite-là. Et les moins polluants, c'est l'éolien, l'hydraulique et le nucléaire. Alors c'est en grammes de CO2 par kilowattheure, comme j'évoquais ça avec vous. Ce sont des chiffres, je précise, qui ne sont pas uniquement les chiffres d'EDF, hein, parce qu'il y a des gens qui disent, oui, vous prenez les chiffres d'EDF, comme ils vendent du nucléaire, il va forcément vous mettre des petits chiffres bien sympathiques ici. Donc j'ai pris soin de prendre des chiffres qui viennent de plusieurs endroits. Il faut toujours regarder d'où vient la source, et faire en sorte qu'on puisse comparer et mettre en... C'est vrai pour n'importe quoi ça. Mettre en regard plusieurs chiffres de plusieurs sources. Et donc si je reviens sur le solaire, c'est parce qu'en fait, les panneaux solaires, les panneaux photovoltaïques, bien sûr, le solaire, ça ne produit pas de CO2. Vous avez votre soleil qui arrive sur les panneaux photovoltaïques, qui produit directement son électricité. Mais pour construire ces panneaux solaires, ça demande notamment beaucoup d'énergie. Pourquoi? Parce qu'on part du silicium, il faut faire fondre le silicium, il faut le graver, il faut le fabriquer, le découper, etc. Et que globalement, quand on compte l'ensemble du CO2 émis par l'ensemble de la chaîne photovoltaïque du solaire PV voulant dire photovoltaïque, eh bien, on considère qu'on arrive à ces chiffres-là. Donc, vous voyez qu'on peut toujours choisir sa source d'énergie, mais que si on veut garder à l'esprit au moins l'idée qu'il faut choisir des sources peu émettrices de gaz à effet de serre, on a un choix qui est plus limité que le choix actuel. Un autre point que je voulais évoquer avec vous, c'est qu'il y a trois grandes façons d'utiliser l'énergie. Soit on utilise la chaleur, soit on utilise l'électricité, soit on utilise le fait de vouloir se transporter. À partir de là, le choix de la source d'énergie, il est forcément soumis à cet usage. Pourquoi? Parce qu'il est clair que, par exemple, dans le transport, vous avez des contraintes de poids. Jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas de voiture nucléaire. Pourquoi? Simplement parce que, comme j'évoquais avec vous, l'aspect concentration de cette énergie, qui dit concentration, dit quelque chose qui est efficace à très grande échelle. Donc on fait des réacteurs nucléaires, on ne fait pas une petite batterie nucléaire dans sa cave tous les 3 immeubles. Donc à partir de là, la taille même des installations nucléaires fait que c'est inimaginable de l'imaginer à l'échelle d'une voiture. L'électricité, en revanche, par exemple, une autre chose, c'est qu'il faut choisir si on est connecté au réseau ou pas. Si vous n'êtes pas connecté au réseau, rien ne vous empêche de faire de l'électricité solaire, éolien, si vous n'êtes pas un grand consommateur, ça marche très bien. En revanche, si vous avez un grand réseau, si vous êtes dans un pays qui est déjà très développé du point de vue réseau électrique, eh bien vous allez pouvoir irriguer les différents sites à partir d'un moyen de production centralisé. Donc le fait de choisir centralisé ou décentralisé comme moyen de production est aussi lié à l'existence d'un bon ou d'un pas bon réseau électrique. Et puis enfin, la chaleur, on conçoit bien que la chaleur, ça ne se transporte pas. En général, votre chaufferie, même d'un immeuble ou d'un ensemble d'immeubles, elle n'est pas loin des immeubles. Vous n'avez pas le chauffage qui est à 100 km de chez vous. Donc ça, c'est une idée qu'il faut retenir. Par exemple, la chaleur, ça ne se transporte pas. L'électricité, ça se transporte bien, en revanche. Hein, il y a des grandes chances que l'électron qui passe là quelque part pour nous éclairer, il provienne même de l'étranger, si ça se trouve, suivant l'heure du jour où on l'utilise. En revanche, ça ne se stocke pas. Alors, ou très mal. Ça peut stocker dans une batterie, ça peut stocker... Mais c'est pas quelque chose, c'est quelque chose sur lequel on travaille, parce qu'il y a des grandes voies d'amélioration. Donc vous voyez qu'à partir de l'usage qu'on veut en faire, ça détermine aussi la source d'énergie qu'il faut mettre en œuvre. Et il ne faut surtout pas décorréler l'usage de la source d'énergie lorsqu'on fait le raisonnement de savoir qu'est-ce qu'on peut choisir. Alors ma formule facile à retenir, c'est que la création d'une source d'énergie, ça obéit aux 3 lettres énergie, qui sont dans le désordre, mais que je remets dans l'ordre. Il faut quand même que ça soit novateur comme procédé, N comme novateur, c'est-à-dire il ne faut pas se priver de chercher des procédés innovants. Alors, je prends l'exemple, par exemple, de la fusion qu'on évoquait tout à l'heure, même si c'est pour 2100, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas chercher maintenant, il ne faut pas mettre toutes les forces en recherche pour faire en sorte que ça débute. R comme rigoureux, ça consiste en quoi la rigueur dans ce domaine-là? Ça consiste soit à augmenter les rendements, c'est-à-dire à diminuer les pertes, hein, faire en sorte qu'on trouve un truc qui soit mieux isolé, qu'on puisse mieux utiliser la matière première, etc. Ou favoriser la cogénération. Qu'est-ce que c'est la cogénération? C'est de dire, je fais de l'électricité à partir d'un truc en faisant tourner une turbine, donc j'utilise la vapeur, Mais cette vapeur, à la fin de la turbine, par exemple, elle existe encore à l'état de vapeur, et elle est encore chaude, et je peux m'en servir pour chauffer une eau quelconque, pour chauffer des serres, pour utiliser ça. Donc, ce qu'on appelle la cogénération, c'est faire à la fois, par exemple, de l'électricité et de la chaleur. Et puis J, comme judicieux, c'est ce que j'évoquais avec vous dans la diapo précédente, hein, c'est le fait qu'il faut en gros choisir la bonne source pour le bon usage. Donc à partir de cette considération-là, eh bien, on est à même de pouvoir imaginer choisir quelque chose de pas trop bête dans les moyens d'énergie du futur. Et donc je voulais juste terminer par cette... Voilà. Ce graphique-là qui est, nous change un peu, qui est l'espérance de vie en fonction des pays et en fonction de ce que les gens consomment. Alors c'est des TEP par an par habitant, les TEP c'est les tonnes équivalent pétrole parce qu'on a pris un truc qui puisse faire en sorte qu'on puisse comparer les pays entre eux. Alors vous voyez qu'à partir d'un certain, on va dire à partir de là, à peu près, hein, ici, 3 TEP par an par habitant, l'espérance de vie reste à peu près la même. Donc on peut imaginer que ceux qui sont là, effectivement, ils gaspillent un peu l'énergie. Hein, parce que finalement ils ne gagnent rien en termes de vie par rapport à ceux-là. En revanche, ici, ça se passe autrement. Vous voyez qu'ici, on a des pays qui consomment très peu et où l'espérance de vie, elle est inférieure à 50 ans, quand même. Tout ça pour dire que simplement que l'énergie, c'est quand même quelque chose qu'il faut bien sûr maîtriser, qu'il ne faut pas gaspiller, mais dont on ne peut pas dire à certains, bah, écoutez, nous, on l'a gaspillé, alors maintenant, vous vous en passez. À l'échelle mondiale, c'est quelque chose qui est plus compliqué et qui fait en sorte qu'il y a un certain nombre de très grands pays comme la Chine, l'Inde, qui ont eux aussi droit à l'énergie. Pourquoi ? Bah simplement parce que ce droit à l'énergie, il correspond à un droit à une meilleure vie. En revanche, bien sûr, il y a d'autres pays dont on peut imaginer qu'ils puissent réfléchir à la façon de mieux dépenser ou mieux maîtriser leur énergie. Et ceci fait que certains experts, en termes de scénarios dans le futur, imaginent par exemple qu'on puisse... Alors vous avez ici ce qu'on appelle le mix énergétique, le mélange énergétique pour 2050. Puis imaginez que finalement en 2050, à partir de tout ce que je vous ai dit, on puisse quand même, energy management, on puisse quand même diminuer, grâce à la maîtrise dans l'énergie, diminuer la quantité d'énergie qu'on consomme d'un assez grand domaine, vous voyez, qu'on puisse mieux utiliser les énergies renouvelables. Toujours utiliser notre partie de nucléaire dont vous avez vu, c'est la façon de produire massivement de l'électricité sans émission de gaz à effet de serre. Utiliser les fossiles en séquestrant le CO2. Et puis quand même utiliser les fossiles sans séquestrer le CO2 parce que ça serait, c'est une opération qui est difficile du point de vue technique et scientifique et qu'on n'est pas sûr d'y arriver. Donc voilà, c'est ma dernière diapositive. Pour moi, le mélange énergétique des années 2050, eh bien, ce sera celui que vous avez là, c'est-à-dire apprendre quand on est un pays qui gaspille un peu trop son énergie à mieux la maîtriser, développer les renouvelables, le nucléaire et séquestrer le CO2. Voilà, je suis donc prêt à répondre à vos questions.